Alors? Vous n'avez toujours pas lu la presse cette semaine. Dommage, vous auriez vu que j'ai fait des progrès. Je suis passé de la rubrique économique au gros titre. La classe. Je vous avais pas dit que ça allait être de pire en pire. Vous vous souvenez? Le shitstorm?
Oui, je me souviens.
Bon, alors, ma femme pense que le journaliste du Parisien m'en veut personnellement. Bon, c'est vrai, hein, que ça, il n'en loupe pas une. Hein. Vous savez qu'il est allé voir la famille de Myriam. Il a toutes les infos avant tout le monde. Hein. Incroyable. Moi, je suis presque admiratif. Même quand c'est contre moi, moi, ça... J'aime bien les gars qui mettent du cœur à l'ouvrage. Au départ, j'ai dit à ma femme qu'elle exagérait. Ce type fait son boulot. Mais bon. C'est tellement virulent que j'ai commencé à tourner ça dans ma tête, puis il m'est venu un truc. Il s'appelle Dupuis.
Dupuis?
Oui, le journaliste. Le journaliste du Parisien. Mmh. Son nom de famille, c'est Dupuis. Mmh. Ouais, voilà. Alors, l'autre nuit, j'ai fait comme vous me l'avez suggéré. J'ai accueilli mon insomnie, j'ai essayé d'entendre ce qu'elle avait à me dire. Et je me suis mis à penser que ce journaliste, c'était peut-être de la famille d'un de mes salariés. Parce qu'il y a quelques années, non, vous savez, pendant la crise de 2008, on a dû se séparer de certains anciens, on n'avait pas le choix, c'était... Donc, gros plan social, licenciement par dizaine. Croyez-moi, c'était pas évident de mettre à la porte des gens qui travaillaient chez nous depuis 30 ans. Et donc, je me suis mis à imaginer que ce journaliste était de la famille de quelqu'un que j'avais licencié, quoi. Et c'était Denis Dupuis. Donc, quand il m'assassine, quand il m'accuse du suicide de Myriam, il se venge.
Dupuis, c'est un nom très courant.
Oui, non, non, je sais que c'est courant, oui. Je sais, merci.
Pourquoi faites-vous ce genre d'hypothèse? Vous vous sentez coupable?
Non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je vous raconte les nuits où j'imagine les raisons les plus invraisemblables de cet acharnement. Ça m'obsède. Quand j'ai fait le tour, je me dis, t'es complètement parano. Et hop, je repars pour un tour. Je me sens agressé, je regarde le réveil. Même l'heure, je la trouve agressive. C'est un genre 3h48, là, ça me pique bien. Ah, docteur. J'ai peur d'être en train de dérailler. Je pense très souvent à Myriam. Et je pensais pas que j'y penserais autant. Je vous le dis, je deviens fou.
Oh, ne deviens pas fou qui veut.
C'est quoi ça, c'est Freud?
Non, c'est une phrase de Lacan.
Bon, ben d'accord, je suis content pour lui, mais... Seulement tout ça, ça me préoccupe vraiment. Et puis alors, en plus, ça fait deux nuits que je me mets à focaliser sur ma fille, Anouk. Alors, c'est peut-être à cause de son mail d'en avoir parlé ici, je sais pas. Mais...
Quelle forme prend cette focalisation?
J'arrête pas de me dire si elle tombait sur ses articles.
Vous avez peur de sa réaction?
Non, 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 ça, pas du tout, non. Non, elle me connaît. Depuis qu'elle est petite, elle sait à quel point je fais du souci pour mes salariés.
Alors, qu'est-ce qui vous inquiète?
Il pourra découvrir que c'est ma fille. Et ça se trouve, ils le savent déjà. Ils attendent pour décider du montant de la rançon.
Mais qui ça, il?
Écoutez, je sais que vous ne me croyez pas, mais là-bas, ma fille n'est pas en sécurité. Vous savez, les gens désœuvrés et alentourés de gens désœuvrés, ils sont prêts à tout hein, pour s'en sortir. Et on ferait peut-être pareil à leur place. Alors qu'il est à nous qu'elle a peut-être disparu.
À la fête foraine de l'angoisse, vous n'êtes pas obligé d'essayer tous les manèges.
Je sortirais bien cette phrase à ma femme, mais je suis pas sûr que ça l'amuse en ce moment.
Elle est anxieuse, elle aussi?
Anxieuse, c'est faible. Depuis quelques jours, elle est couverte de plaques rouges, elle maigrit à vue d'œil. J'essaie de la préserver de tout ça, mais bon. Normal, hein. Nicolas s'inquiète pour sa fille, pour notre fille. Ben quoi? Qu'est-ce qui vous fait sourire?
Ce serait ennuyeux que votre femme s'inquiète pour vous.
Non, non, absolument pas. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour moi. C'est juste une histoire emmerdante. Enfin, pénible, mais ça passera. Et si vous aviez accepté de m'aider, ça serait certainement passé plus vite. Hein. Seulement, voilà, vous n'avez pas voulu de moi. Pas grave. Les crises, ça passe toujours. Toutes les crises, ça passe.
Ça passe toujours.
Ah. Qu'est-ce que je dis encore ?
La même chose que la semaine dernière. L'autre jour, quand vous avez eu cette crise d'angoisse, quand je vous ai proposé de l'aide, vous avez décliné en disant exactement cette même phrase. Ça passe toujours.
Mais c'est pas aussi grave que ça en a l'air. C'est vraiment sans importance.
Pourtant impressionnant pour quelque chose de pas important. Vous avez parlé à votre médecin de vos insomnies, vous a prescrit des somnifères, mais vous ne lui avez jamais parlé de vos attaques de panique.
Mais parce que ce ne sont pas les attaques de panique, enfin, ça n'arrive pas dans des situations stressantes.
Très bien. Quand arrive-t-elle alors ?
Quand je suis fatigué, comme en ce moment, là. Puis ça peut m'arriver au cinéma ou à un dîner avec des amis. Hein.
Ou en thérapie, manifestement.
Écoutez, je ne suis pas en thérapie. Hein, vous êtes encore à l'essai, vous vexez pas, moi je suis franc. La semaine dernière, c'était comme un entretien d'embauche raté.
D'accord.
Ben, je suis revenu.
Si vous êtes revenu aujourd'hui, c'est peut-être que quelque chose vous a interpellé la dernière fois.
Non, écoutez, moi je suis un type concret. Si on propose quelque chose, j'essaie. Si ça marche pas, j'arrête, voilà. Disons que je tente.
Avez-vous eu d'autres crises depuis que nous nous sommes vus ?
Non.
À quand remonte la précédente ?
Je sais pas. Je sais plus, je tiens pas de carnet de bord.
Et vous devriez ?
Ah. Ça vous intéresse tant que ça ?
En réalité, c'est pas la crise d'angoisse en elle-même qui m'intéresse, mais la façon dont vous allez la raconter. Quoi pensez-vous ?
Ah, c'est vrai, vous voulez aussi que je vous dise tout ce qui me passe par la tête. Eh bien d'accord, je penserai au Dubreuil. Je ne vous ai pas encore parlé d'eux.
Je vous écoute.
Ce sont les actionnaires majoritaires de ma boîte. Donc ça fait plus de 50 ans que je travaille pour eux. Et bon, je suis comme de leur famille. Vous savez, tout ça, ma condition, l'argent... C'est grâce à eux.
Et les ennuis aussi ?
Non, ça c'est mon problème. J'ai rencontré leur fils Christian quand je faisais mes études et on est devenus inséparables. Vous savez, j'avais pas un rond quand je suis arrivé à Paris. Et je passais ma vie chez les Dubreuil, ils me nourrissaient. Et puis alors, un été, ils m'ont embauché avec Christian comme vendeur dans un de leurs magasins. C'était un vrai bric-à-brac, c'est un pic-puce dans le 12e. Et ils vendaient toutes sortes de choses, du matériel de bureau. Mais, avec Christian, on a vite compris que ce qui marchait le mieux, c'était les appareils électriques. Vous savez, les aspirateurs, les fer à repasser, les poseurs radio, enfin tout ça, quoi. Et c'était le début du robot mixeur. Et Dubreuil, ça a été procuré quelques-uns, et paf, ça s'est parti comme des petits pains. Bah, votre mère en a certainement eu un, non ? Si j'avais veillé sur Christian comme il avait veillé sur moi à Paris, il serait encore là aujourd'hui. Une famille qui perd un enfant, c'est terrible. Quand il a disparu, j'ai eu le premier à ses parents de continuer ce qu'on avait fait ensemble. Et c'est juste quelques jours après que sa voiture se soit encastrée dans ce foutu camion que sont réapparues mes crises. Puis du jour au lendemain, c'est passé. Comme à chaque fois, ça passe toujours.
Réapparu ?
C'est ça depuis que je suis gosse.
À quel âge aviez-vous quand c'est arrivé pour la première fois ?
Moi, je devais avoir 5 ans. Non, non. Non, attendez, je devais... Oui, je devais avoir 6 ans. Oui, oui, 6 ans. Parce que je dormais déjà dans la chambre de Michel. Mon frère aîné. Sans doute que la mort de Christian m'a appelé la mort de Michel. C'est fou ce qui se passe chez vous.
Votre frère est mort quand vous étiez enfant?
Oui. L'année de mes 6 ans.
Qu'est-ce qui lui est arrivé?
Il avait 11 ans de plus que moi. Et une cousine de ma mère nous prêtait une maison au bord de la mer, à Pointe du Raz. Michel, c'était vraiment la tête brûlée, il avait peur de rien. Toute ma vie, moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça. C'est comme si... il pouvait survivre à tout. Et alors, donc, un soir, avec des amis, ils ont décidé de sauter d'une falaise dans la mer. Mais ça, c'était un jeu qu'on fait très souvent en Bretagne. Et Michel a été le premier à relever le défi. Et sa tête a heurté un rocher. Et il a été tué sur le coup. Il avait 17 ans. Il allait entrer à Polytechnique.
À 17 ans.
Ouais, il était brillant, il a eu son bac à 15 ans. C'est un génie, mais vous imaginez pas. Là, ça, bon, je ne vous l'ai pas dit, mais on était pauvres. Mes parents n'avaient même pas le certificat d'études, alors vous imaginez la fierté.
Comment avez-vous réagi à sa mort?
Je sais pas, j'ai pas de souvenir précis.
Et vos parents?
Oh bon, mes parents, c'était pas du genre expansif. Ils n'ont jamais parlé de l'accident, et après l'accident, ils n'ont jamais parlé de Michel. Plus jamais.
Mais vous, vous avez sûrement ressenti des choses, même dans ces silences.
Après la mort de Michel, je me souviens, j'ai passé quelques nuits chez des voisins. Bon, puis je suis rentré chez moi. Et là, mon père était dans le salon, il fumait sa clope comme tous les soirs. Et il m'a emmené dans la chambre de Michel. Ses affaires étaient encore là, rien n'avait bougé. Et mon père a juste dit cette phrase. C'est ta chambre. Et avant de partir, il s'est retourné vers moi. Puis il m'a dit, maintenant, je sais pourquoi on t'a eu. J'avais 6 ans, je me souviens peut-être pas bien, mais enfin, je peux me tromper, mais...
Peu importe l'exactitude du souvenir, c'est comme ça que vous le reportez. Et votre mère, comment a-t-elle réagi?
Ses cheveux ont blanchi d'un coup. Elle avait de magnifiques cheveux, roux. Et en une nuit, elle était devenue une vieille femme. C'est comme si elle avait disparu, quoi, qu'elle avait été remplacée par une autre femme.
C'est à partir de ce moment que vos crises d'angoisse sont apparues. Alors que vous dormiez dans la chambre de ce frère mort.
Ah oui, ça, quand je dormais, je me réveillais en sueur tout le temps. Enfin,